J'ai placé mes thermostats hors de la portée de ma blonde. Là, j'en fais des économies.
Si je faisais ma vaisselle à 9-10 heures le soir, mon voisin d'en bas viendrait bien me casser la gueule.
Dis-moi, j'ai réglé le problème. Je me lave seulement une fois par semaine à l'eau tiède. Marc-André lui répond, Chantal, ça doit goûter bon dans le pantalon.
Bonjour, ici Francis Labbé, porte-parole Hydro-Québec. Bienvenue à votre tweet, c'est important pour nous. C'est le balado où on aborde avec vous les sujets qui vous font discuter, jaser sur nos plateformes de médias sociaux notamment. Et autour de la table, il y a celles et ceux qui vous répondent. Gabriel Leblanc.
Bonjour, Francis.
Pierre-Alexandre Buisson.
Prompt rétablissement.
Et Jonathan Côté.
Bonjour, Monsieur Labbé.
Je ne sais pas exactement de quoi je dois me rétablir, mais je vais y penser. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'efficacité énergétique. Et ça, c'est un sujet qui génère toujours son lot de commentaires. D'ailleurs, si je ne m'abuse, vous me corrigerez si je me trompe, mais le tweet qui a le plus brisé l'Internet au Québec, comme vous dites, ça parle d'efficacité énergétique. C'était l'épisode de la douche où quelqu'un parlait de se faire plaisir, mais finalement, on disait « fais ça à l'eau froide », n'est-ce pas?
Effectivement, la personne sur Twitter disait « le fret s'en vient, Hydro-Québec vont bientôt nous donner le conseil pour économiser l'électricité comme se masturber ailleurs que dans la douche ». À quoi on avait répondu « si vous voulez économiser l'électricité, vous pouvez quand même le faire dans la douche, mais à l'eau froide ».
À l'eau froide.
Donc voilà. Très bon conseil en efficacité énergétique. D'ailleurs, on nous en reparle régulièrement. Souvent, dans les publications d'efficacité énergétique, il y a des gens qui nous ramènent cette astuce.
Ça, c'en était un, mais la preuve que ça génère souvent beaucoup de commentaires. Monsieur Buisson, vous en avez un à nous soumettre?
Ben oui, on a un E.T. qui nous dit, mais c'est pas le fameux extraterrestre.
C'est pas celui qui veut appeler à la maison, là.
Non. De la manière que c'est super éco dans mon bloc, si je faisais ma vaisselle, mon lavage et mon séchage de linge à 9-10 heures le soir, mon voisin d'en bas, qui se lève à 2 heures du matin, viendrait bien me casser la gueule. c'est une réalité, hein? Les gens habitent pas toujours dans les McMansions, donc parfois dans des blocs d'appartements, ben, les murs sont presque en carton. C'est une préoccupation quand même légitime, mais on lui a quand même répondu. Précisons qu'il est illégal pour votre voisin de vous casser la gueule.
Quand même rassurant. Tu
sais. Oui, c'est un bon rappel. Madame Leblanc.
En fait, les gens font souvent le lien entre efficacité énergétique et recharge de véhicules électriques. Hein. Les gens ont tendance à penser qu'on leur demande de faire attention, de ne pas gaspiller pour que les gens qui ont des véhicules électriques puissent se recharger. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais on a un client qui nous a écrit, en fait, c'est Michel, on le salue. Tu radotes ton texte, mon application ordinateur, tu n'es pas humain et ça paraît. Puis là, j'avais été voir un petit peu la photo de profil à Michel pour pouvoir m'inspirer, pour lui donner une réponse personnalisée, dans le but, évidemment, de lui prouver que je ne suis pas un robot. J'avais été voir sa photo de profil, puis je lui avais offert un gros cadeau. Je lui ai dit, Michel, est-ce qu'une machine serait capable de vous offrir cet acrostiche personnalisé? C'est parti. M. Monsieur avec une. I. Image de profil de gros camion. C. Certainement qu'il redoute les véhicules électriques. H. Hautement incertain de nos arguments. E. Et pourtant, c'est scientifique. L. L'avenir lui permettra sans doute de comprendre. Et là, je me suis dit, Michel va être comblé. Je lui ai quand même offert un beau cadeau personnalisé.
Oui, étais-tu content de ça?
Pas du tout! Il m'a répondu, oui, bien montré, style humanoïde, mais sans sentiment. Donc, peut-être que mon acrostiche manquait d'émotion. J'aurais peut-être dû mettre des emojis à chaque ligne.
T'as oublié de mettre du sentiment, Gabriel.
J'ai oublié de mettre du sentiment. On sait bien qu'un toaster ne pleure pas. Moi, pourtant, je suis très braillarde. Je ne suis pas un robot.
Mais tu es capable de passer un CAPTCHA, là, sans problème.
Sans problème, oui.
Jonathan, à votre tour.
Oui, en fait, il y en a qui semblent avoir la nostalgie d'un temps qui est révolu avec la consommation d'électricité. Paul qui nous disait, dans le bon vieux temps, pas mal toutes les portes d'entrée d'habitation étaient éclairées par au moins une ampoule, ce qui égayait et sécurisait les rues. Cette époque est révolue, probablement pour économiser l'énergie et réduire la facture d'hydro. Triste, le Québec est sombre, macabre et mort, étouffé. Ma patrie est infestée de gourous du climat, de prophètes agnostiques aux discours faussés, alarmistes et fatalistes de fin du monde, de ports libéraux fascistes de l'extrême gauche de woke bâtard.
Ça a escaladé quand même, hein?
Mais c'est quand même un peu choqué, ouais.
J'ai peur que notre invité se pointe pas.
Et
si
ça, c'est votre quotidien, là.
Ben, Paul, je pense qu'il aimait bien gros sa petite ampoule dans l'entrée.
Okay. Visiblement, il était attaché à son
un peu nostalgique du passé, je pense.
On n'a pas répondu à Paul là-dessus. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, mais je pense qu'il était un petit peu choqué.
Tout était dit.
Voilà.
Vous l'aurez compris, on parle dans cet épisode d'efficacité énergétique. Et pour aborder le sujet, nous recevons M. Étienne Saint-Cyr, qui est chef expertise énergétique. Bonjour, M. Saint-Cyr.
Bonjour, Francis.
Bonjour.
Donc, qu'est-ce que ça fait au quotidien, un chef expertise énergétique?
Bon, l'objectif de notre équipe, c'est de s'assurer que les kilowattheures et les économies d'énergie qu'on met publiquement sur tous nos programmes d'efficacité énergétique sont précis. Essentiellement, donc, on essaie de distinguer les mesures qui sont bonnes des mesures qui ne le sont pas, distinguer un peu le vrai du faux dans l'efficacité énergétique et s'assurer que nos programmes et nos messages qu'on a sur le site Web et sur toutes nos plateformes sont précis et pertinents. À peu près ça.
On dit souvent que l'énergie la plus intéressante, c'est celle qu'on ne consomme pas. J'imagine que ça dicte pas mal nos actions.
Effectivement, mais j'ajouterais aussi que c'est pas nécessairement pas consommer l'énergie, mais c'est bien la consommer.
Bien la consommer.
On l'utilise un peu ce terme-là. J'aime bien le terme qu'on utilise dans nos campagnes, qui est mieux consommer. Donc, je vous rappelle que l'efficacité énergétique, c'est pas se priver d'énergie, mais c'est de l'utiliser judicieusement et ne pas la gaspiller. Donc, c'est ce qu'on tente de faire. Donc, c'est pas se priver et de contrecarrer toute notre consommation, mais bel et bien de l'utiliser au bon moment.
C'est intéressant parce que les gens, des fois, disent hey, « c'est pas vrai que je vais me priver pour faire plaisir à Hydro ou pour exporter de l'énergie ou pour les chars électriques. C'est pas vrai qu'on va se priver, mais on demande pas aux gens de se priver, justement. »
Pas du tout aux gens de se priver. Puis je donne toujours l'exemple de fermer sa lumière pour aller souper. Ben oui, mais si on voit plus ce qu'on mange, est-ce qu'on a rempli notre besoin? Non. Mais si on l'a tamisé juste comme du monde, puis on parlait tout à l'heure de l'histoire de la douche, là, mais on va reprendre un peu l'histoire de la table à manger en couple. Puis là, ben, si on a un bel éclairage adéquat, on a peut-être justement un besoin encore meilleur, puis on a fait quelques petites économies.
On a amélioré l'ambiance en économisant
les... On peut même s'éclairer avec l'élément du four.
On pourrait. Ça dégage un petit peu d'éclairage et ça peut être pratique.
C'est très romantique.
Oui, mais une chandelle, ça peut être aussi romantique.
Dans le fond, on sauve des couples chez Hydro-Québec.
Exact.
C'est étonnant parce qu'au fil des épisodes, c'est quelque chose qui ressort, c'est justement que le lien entre le couple puis tous les sujets qu'on aborde, à un moment donné, ça ressurgit. Le concept de ce balado, évidemment, c'est qu'on vous soumet des commentaires du public. Et je pense que Pierre-Alexandre en a un pour vous.
Oui, j'ai un commentaire d'une Guylaine.
On la salue.
Salut Guylaine.
On salue Guylaine. Tout le monde qui nous a fourni ses précieux commentaires, en fait, depuis le début de la série. Bof, je suis d'accord. Cependant, Hydro devrait demander aux entreprises de faire leur part. À mon retour ce soir, je remarquais toutes les entreprises de l'ouest de l'île de Montréal le long de l'autoroute 40. Beaucoup de lumière, même de décoration, plus leur spot sur le nom de leur entreprise sur leur terrain. La moitié éteinte serait équitable dans l'effort collectif avec un émoji de diable pas content.
Bon, d'abord, je veux dire que les entreprises sont au cœur de nos activités en efficacité énergétique. Ils font des efforts majeurs. On a des programmes, ils participent. Donc, ils font, que ce soit en gestion de puissance, on y reviendra sur les différences peut-être entre la gestion de puissance et l'efficacité énergétique. Mais grosso modo, oui, il y a des efforts à faire encore. Donc, madame rejoint un peu des... Est-ce que l'éclairage architectural, donc on met en valeur le bâtiment, est-ce nécessaire? Certains pourraient dire, bien, ça met en valeur mon entreprise, ça lui permet de faire des ventes additionnelles et compagnie. Donc, on peut rejoindre à dire, est-ce nécessaire? Bien, probablement que oui.
Mais tous les édifices ne sont pas le château Frontenac.
Non plus. Donc, effectivement, et le rétroéclairage de la... Bref, toutes les mesures sont bonnes et je vous confirme que nos entreprises font bel et bien un effort important en efficacité énergétique, mais ils peuvent toujours en faire plus et il suffit que les employés, même à l'intérieur de l'entreprise, remettent en question certaines habitudes de leurs propres activités puis puissent peut-être lever la main auprès de leurs dirigeants.
Donc, ça doit venir de là, des fois, les efforts, justement, c'est les employés qui disaient là, ça n'a pas de bon sens, on devrait
faire ci et ça. Puis il y a plusieurs entreprises qui sont dotées de groupes d'énergie et on soutient des activités comme ça dans plusieurs entreprises.
On fait beaucoup de sensibilisation, en fait, sur les réseaux sociaux. Là, nous, on voit, tu sais, on publie beaucoup de publications pour aider les gens, justement, à mieux consommer et tout. Puis le commentaire qui revient souvent par rapport aux entreprises, j'ai l'impression que les gens sentent qu'on ne sensibilise pas les entreprises, mais nous, nos messages, on les passe vraiment à tout le monde, là, que tu sois propriétaire d'une terre agricole, d'une ferme, d'un édifice où tu reçois des employés. Tout le monde est sensibilisé de la même façon.
Le résidentiel, le petit commerce, l'agricole, la grosse industrie, tout le monde a quelqu'un quelque part chez Hydro qui s'adresse à eux. À l'entreprise de grande envergure, bien, on a des gens qui prennent le téléphone. Et
carrément,
qui,
on leur parle directement.
On leur parle directement. On a des gestionnaires d'entreprise sur le téléphone rouge, puis on leur fait des suivis réguliers pour s'assurer qu'ils sont au rendez-vous. Puis s'ils ne sont pas, bien, on les rappelle l'année suivante pour peut-être leur rappeler qu'ils sont aussi une part de l'activité d'efficacité énergétique qu'on peut mettre en place.
Est-ce qu'il y a des chances que monsieur et madame tout le monde n'aient pas eu conscience d'un effort de sensibilisation aux entreprises parce qu'ils ne possèdent pas l'entreprise?
En effet, mais on fait de la publicité pour les entreprises. Peut-être que ça passe un peu sous le radar du commun des mortels, mais on intervient et on appelle...
Parce qu'ils ne l'ont pas vu... Ça n'existe pas.
Eh bien, voilà. Mais pourtant, on fait des efforts majeurs avec nos équipes pour sensibiliser nos entreprises et nos institutions. En passant, c'est pas juste les entreprises, mais les gouvernements, les municipalités sont aussi mis à profit pour pouvoir participer à l'effort collectif.
On parlait tout à l'heure du lien entre nos publications et nos programmes et la vie de couple au Québec. Madame Leblanc, vous avez un commentaire qui abonde dans ce sens-là.
Absolument. Là, on va toucher à ton côté un petit peu plus cupidon. Tu vas régler une chicane de couple.
Je vais tenter de le faire.
Mathieu nous a écrit « J'ai placé mes thermostats hors de la portée de ma blonde. Là, j'en fais des bip, des économies. Ah ouais, amenez-en du fret. » Et là, qui c'est qui n'a pas répondu à son commentaire? Évidemment,
sa blonde.
Jessica qui dit « Touche pas au thermostat. Bip! » Mais quand même en lui envoyant un petit bisou. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que toucher les thermostats, pas toucher les thermostats, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour améliorer notre bilan énergétique à la maison? Est-ce que Mathieu et Jessica pourraient peut-être trouver d'autres façons de réduire ou d'améliorer leur consommation sans chicaner sur les thermostats ou ils doivent absolument se chicaner sur les thermostats?
Les thermostats. C'est vraiment peut-être avec le lave-vaisselle, le point de discorde commun des couples. Mais grosso modo, moi, je suis d'avis qu'il faut choisir notre confort. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein, on met pas de sacrifice, mais si une petite laine de plus fait affaire à tout le monde, on va faire des économies, puisque la laine, ça fait partie du confort.
Ou un câlin de plus.
Ou un câlin supplémentaire. Mais pour répondre peut-être à la question, est-ce que ça vaut la peine de commencer à jouer avec la température? Ça vaut pas vraiment la peine, OK? Par contre, quand c'est la nuit puis on veut peut-être être un peu plus douillet sous les couettes, ben l'abaissement de la température la nuit peut valoir la peine de faire quelques économies de ce côté-là. Et si surtout une pièce, pour une raison ou pour une autre, est inoccupée, puis on a l'occasion de baisser un peu la température dans cette pièce-là parce que ça va seulement donner le confort peut-être aux chats ou aux plantes qui se trouvent dans la pièce, ils vont être capables de pallier à l'écart. Donc ça, c'est des économies qu'on peut faire, définitivement, en ajustant la bonne température à la bonne place.
Exact. Comme moi, j'ai des enfants à la maison, puis des fois, quand j'ai la chance qu'ils se fassent garder chez les grands-parents, on ferme la porte de leur chambre, puis on baisse le chauffage au minimum. Ça donne rien de...
Et je te confirme que ça va faire des économies.
Jonathan, t'es un exemple à suivre.
Ben, coudonc,
on dirait que tu connais ça.
Mais hey, j'ai justement un autre exemple, justement, dans les relations de couple. Celui-là, peut-être un petit peu plus touché, mais quelqu'un dit, Chantal, dis-moi, j'ai réglé le problème, je me lave seulement une fois par semaine à l'eau tiède. Marc-André lui répond, Chantal, ça a de goûter bon dans le pantalon. Peut-être qu'on peut pas aller aussi loin non plus pour pas briser des relations de couple, j'imagine.
Tout à fait. On peut, mais au-delà de réduire notre consommation d'eau chaude, je crois que c'est bon de prendre une bonne douche. Quand on réduit la durée de la douche ou quand on la combine en réduisant le total de la durée, on fait des économies d'eau chaude et on fait des économies sur la facture.
Donc, il n'y a aucune raison que ça goûte pas bon dans le pantalon.
Non.
Exact. Mais là, on parlait d'eau chaude. J'ai Donald qui nous demandait... Il dit « Hydro-Québec, est-ce que les chauffe-eau instantanés sont une bonne option au Québec? Je dois changer mon chauffe-eau de 40 gallons qui a eu 10 ans, mais l'ancien proprio a eu une crampe au cerveau pour l'emplacement lors des rénos majeurs, donc j'envisage de changer pour un instantané. Ça vaut-tu la peine au Québec? »
Le chauffe-eau instantané, c'est essentiellement 5 à 6 fois plus puissant pour fournir la chaleur de la douche.
C'est que l'eau, elle se fait chauffer au fur et à mesure qu'on l'utilise.
En direct.
Immédiatement. Ouais, okay? Donc, plutôt qu'avoir une puissance qui est de l'ordre de 3 kilowatts, là, je ne veux pas rentrer dans les... On parle de 24 kilowatts. Donc, ça prendrait la moitié d'un panneau électrique pour réserver uniquement pour un chauffe-eau. Quand
puis,
là, on prend...
Moi, ma voiture électrique, quand je la recharge, c'est 7 kilowatts.
Ouais.
Fait que ça serait comme plus que 3 fois la puissance demandée par mon auto électrique pour le chauffe-eau.
Oui.
C'est quand même intense.
Pour maintenir une température adéquate pour prendre une douche et une seule douche à la fois. Là, si vous faites la vaisselle en même temps, ça ne marchera plus du tout.
Ça ferait, ça ferait une pointe de consommation en plus, très intense pendant une courte période de temps.
Exactement. Donc, l'avantage du réservoir, c'est qu'on étire le bonheur de consommer, essentiellement, dans plusieurs minutes, voire on dit, essentiellement, une douche va prendre à votre chauffe-eau environ 45 minutes. Donc, une douche de 8 minutes, grosso modo, va prendre entre 45 minutes et une heure pour se recharger dans votre chauffe-eau. Et on a même des chauffe-eau à trois éléments, en passant, une technologie qui s'appelle EcoPix, excusez-moi, qui peut se trouver un peu partout dans les grandes surfaces et qui permet même d'abaisser cette puissance de 3 kW à 800 watts, donc 0,8. Et là, c'est plus 45 minutes que le chauffe-eau va prendre, mais peut-être 3 heures.
Donc, c'est plus long, mais c'est meilleur pour les pointes de consommation.
Exactement. Donc, on réduit l'appel de puissance instantanée. Et vraiment, la situation la pire, c'est le chauffe-eau instantané électrique.
C'est notre invité de notre épisode sur les pointes qui serait heureux de t'entendre parler
tout
de ça.
Tout à fait. Mais je suis dans les mêmes objectifs que lui.
Il y a d'autres façons aussi de penser au chauffe-eau. Il y a justement un commentaire là-dessus, M. Buisson. Je pense que vous voulez nous soumettre.
Oui, en fait, à propos du chauffage, c'est vraiment un débat constant sur notre page. Puis là, il y a une Monique qui résume bien un petit peu la question que pas mal tout le monde se pose. Baisser le chauffage ne change rien, car quand tu le remets à la bonne température, il fonctionne pour longtemps pour récupérer les degrés perdus. J'en ai fait l'essai. Baissé à 18 et le matin remis à 19. Et il fonctionne plus longtemps pour récupérer le degré en moins. Alors, trois petits points.
Alors, Monique, vous avez quand même fait des économies. Oui, et je le confirme. Bonne nouvelle pour Monique. Est-ce que les économies sont à la hauteur que si on avait descendu la température à 18 ou 17 puis on l'avait laissé à 17 pour tout le reste de la journée? Non, parce qu'on doit se reprendre. Donc, l'information la plus importante, c'est si vous avez eu un petit peu plus froid ou si la température dans l'espace a été réduite, vous avez fait des économies. Mais Monique a raison, quand on recommence le chauffage, il y a une partie de ces économies-là qu'on doit sacrifier pour reprendre la température.
Mais ça ne va jamais être annulé au complet. T'sais.
Exactement. Donc, le bilan final entre laisser la température constante à une température, par exemple, de 20 degrés, et de réduire la température et avoir vraiment un espace plus frais pendant la soirée, pendant la nuit, pendant même un week-end d'absence où on est allé à l'île aux Toudres ou à Québec, bien, ça vaut la peine de descendre la température de quelques degrés pour faire des économies, surtout si la période est plus longue. Donc, à ce moment-là...
Parce qu'en fait, c'est ça, c'est simple. Tu payes pour ce que tu consommes.
Ouais.
Donc, si tu baisses ton chauffage, tu ne consommes pas, tu ne payes pas.
Et tu payes pour ce que tu sens. Donc, s'il fait plus froid... Tu fais des économies. C'est aussi simple que ça. Puis c'est pas la puissance consommée sur le chauffage à un moment donné qui est important, c'est le bilan
complet. Mais je pense que c'est ça qui crée de la confusion. C'est que les gens ont l'air de penser qu'en repartant le chauffage, il marche plus fort. Mais il va consommer la même chose, mais un peu plus longtemps.
En fait, il va consommer même très rapidement. C'est même le contraire de la consommation qui aurait étiré pendant la période où on a suspendu le chauffage ou pendant de quelques degrés. Donc, ce chauffage qui va dans le tapis, ben oui, il y a une consommation importante qui vient perdre une partie des économies qu'on a faites juste avant. Mais c'est la même stratégie qu'on demande aux gens en tarification dynamique, justement. On leur demande de déplacer leur consommation. Donc, on ne fait pas beaucoup d'économies, on en fait un petit peu. Mais s'il a fait un peu plus froid, l'objectif ici, ce n'est pas de sacrifier le confort à tout cabis, c'est vraiment de déplacer la consommation. C'est une forme aussi d'efficacité énergétique. Ce n'est pas une vraie économie d'énergie, mais c'est une économie d'énergie à un moment donné. Et c'est ce qu'on tente de faire avec les moyens de gestion de puissance. Grosso modo, on peut se permettre, à peu près à l'exception du chauffe-eau, ça permet d'arrêter à peu près n'importe quelle charge. Mais encore une fois, on a mis d'ailleurs sur notre site web la hiérarchie des besoins, des moyens qui sont les plus rentables. Et de loin en avant, il y a le chauffage des espaces, où on peut faire un petit peu de sacrifice ici, comme on l'a dit, de baisser à quelques degrés, s'ajouter une petite laine. Mais aussi, le véhicule électrique a un grand impact. Mais après ces deux limites-là, là, on peut arrêter l'utilisation de l'eau chaude sans fermer son chauffe-eau. Donc, peut-être reporter la douche elle-même ou reporter l'utilisation de l'eau chaude comme le lavage.
On parle des pointes, pas nécessairement d'économie en général. Là,
c'est quand on parle de pointes et on fait des appels pour la tarification dynamique ou même des appels au grand public. Ça, c'est des moyens. Mais fermer son éclairage avec l'éclairage qui est beaucoup plus moderne maintenant qu'il l'était avant, on a beaucoup moins de consommation sur l'éclairage, qu'il soit extérieur ou intérieur.
Les gros électroménagers, ça, on peut quand même faire des grosses économies. Là, utiliser une jeteuse versus utiliser un four, se faire une salade au lieu de se faire cuire une dinde à ce niveau-là.
C'est toujours utiliser la bonne...
Même mot d'une salade, une dinde,
c'est la même chose. De toute façon, les dindes en ce moment, ce n'est pas un bon timing, apparemment.
J'en sais rien, mais oui. Mais pour venir à ça, ça revient encore à est-ce qu'on remplit le même besoin si on a le goût d'une dinde? Mais là, c'est notre choix de dire on doit sacrifier notre goût de dinde ou notre goût de pâté de viande pour choisir une salade.
Pardonner la dinde.
Oui, pardonner la dinde. Mais moi, c'est, je dis toujours, si vous voulez une dinde, bien, choisissez le meilleur moyen et ne la surcuisez pas non plus pour qu'elle soit trop sèche.
Le four va chauffer ta cuisine de toute façon. Fait que tout,
oui,
est dans tout. Tout
est, oui,
tout
est dans, exactement.
Tout est dans tout, en mais effet.
Les gens se demandent justement, comme c'est quoi là où c'est payant. T'sais? Donc, ouais. C'est vraiment... Il y en a qui disent, OK, bien oui, ça, je veux bien baisser mon chauffage, tout ça, mais c'est mal isolé chez nous, je suis dans un loyer, c'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus. C'est quoi les astuces qu'on peut donner pour essayer d'économiser dans la consommation, dans une optique où des fois, les gens n'ont pas tant le contrôle sur l'environnement dans lequel ils sont?
T'sais. Exact. Donc, les moyens d'économiser de l'énergie, réellement, sur la période complète de l'année, il y en a plusieurs. Mais si on prend, pour exemple, les personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens, mais le calfeutrage de base, si vous voyez le jour de votre porte, okay, c'est déjà un mauvais signe. Ouais. Si une fenêtre se ferme mal pour une raison ou pour une autre, ça se peut qu'un ressort soit brisé ou que le calfeutrage soit inadéquat. Ça, c'est des quick wins. Là. On est capable de faire des grands gains rapidement. Mais évidemment, on ne demandera pas à un locataire de changer ses fenêtres. Okay? Mais non plus, on ne peut pas obliger les propriétaires à le faire parce que quand une fenêtre n'est pas brisée et elle fonctionne bien, c'est déjà mieux qu'une fenêtre ou d'investir des tonnes d'argent pour remplacer la fenêtre. Une bonne fenêtre non brisée, si elle fonctionne bien et son mécanisme est bon, elle devrait être bonne. Maintenant, si elle est en quinconce puis on voit des trous puis que le bâtiment a travaillé, là, il y a des enjeux de calfeutrage qui sont nécessaires. Ça, c'est les premières choses à faire.
Les fuites d'air, là, on veut chasser les fuites d'air.
On veut chasser les fuites d'air. Donc, il y a même des programmes de calfeutrage là, qui sont disponibles, Renault Climat et compagnie. Je n'irai pas dans les détails, mais grosso modo, informez-vous sur les opportunités qui sont disponibles, autant pour les locataires que pour les propriétaires. Puis ça, c'est pour réduire les besoins. Okay? Puis on peut aussi améliorer l'efficacité des équipements. OK? Donc, une plainte électrique, c'est une plainte électrique, mais on peut la remplacer par des thermopompes, on peut peut-être en parler plus tard, mais grosso modo, il y a des moyens, puis c'est pas tous les clients qui ont les moyens de s'offrir ces équipements-là, mais c'est une très bonne façon.
Les fameux thermostats roulettes aussi, on en parle souvent, là, ça aussi, c'est un quick win parce que tu as une grosse marge d'erreur avec ces thermostats-là, versus ces thermostats électriques.
La thermopompe, c'est vraiment une façon extrêmement efficace de réchauffer un logis, mais jusqu'à quel point, comparativement, par exemple, aux plaintes classiques?
Mais d'abord, j'allais juste démystifier comment fonctionne une thermopompe. Mais grosso modo, une thermopompe, ça le dit un peu dans le terme, là, ça pompe de la chaleur. Okay? Donc, il faut que la chaleur soit quelque part. Puis essentiellement, peut-être ça paraît un peu bizarre, mais la pompe, elle prend la chaleur dehors, puis elle l'amène à l'intérieur. Puis pendant l'été, elle fait le contraire, elle prend la chaleur à l'intérieur, puis elle la pompe dehors. Mais essentiellement, c'est pas une résistance électrique. Fait que la chaleur que vous sentez d'une sortie de thermopompe, c'est bel et bien de la chaleur qui vient dehors, qui a essentiellement été concentrée par le compresseur puis qui est envoyée à l'intérieur.
Donc, de la chaleur, même s'il fait moins 25. Là.
Il y en a encore.
Il y en a un petit peu, plus rare, mais là.
Elle est moins grande, elle est moins disponible, mais elle est encore là. Elle est peut-être surtout là, autour de 0, moins 10. Les thermopompes commencent à avoir... Mais grosso modo, ça prend la chaleur à l'extérieur, ça la compresse avec le compresseur. C'est une façon vraiment imagée. Puis ça la... monte en chaleur, puis ça l'envoie à l'intérieur. Fait que comme ça, ça va... Puis combien ça économise? Bon, bien là, c'est un système central où on a une thermopompe qui utilise des conduits d'air qui vont un peu partout dans la maison. On est capable de prendre toute la charge de la maison puis faire des économies de l'ordre de essentiellement, là, 50 % de la charge de chauffage peut être économisée.
Ah, oh, OK, c'est pas, majeur.
Par rapport à des résistances électriques. OK? Puis si on prend des unités murales qui sont très populaires, qu'on peut mettre dans le salon, dans l'espace ouvert, bien là, on réduit un peu les économies puisque bien, les chambres à l'autre bout du logement ne seront peut-être pas aussi bien chauffées. Mais ça va faire quand même des économies qui sont de l'ordre de 25 à 30 % sur la charge globale de chauffage. C'est que c'est des économies très importantes. On parle de 2, 3, voire 5 000 kWh par année simplement en utilisant une thermopompe. Donc, c'est des économies de 2, 3, 400 $ par année récurrentes. Et on offre des appuis financiers pour
exactement.
Ça.
Exactement. Donc, on subventionne ça.
Oui, que ce soit le marché résidentiel, que ce soit le marché commercial, il y a des appuis financiers de notre part, de d'autres de programmes aussi. Donc, vraiment, moi, j'incite tout le monde à regarder leur opportunité de mettre une thermopompe.
Puis ça vient en bonus avec un climatiseur.
Oui, donc la même machine va vous climatiser. Fait que si vous avez un climatiseur bien ordinaire déjà et vous le remplacez par une thermopompe, vous avez essentiellement la même machine, mais qui a une petite valve qui va faire la différence entre l'été et l'hiver.
C'est la Cadillac.
C'est la Cadillac du système de chauffage.
Ça a changé la vie à pire.
Oui. Ben moi, puis personnellement, j'ai fait mon installation de ma première thermopompe il y a à peine quelques semaines. Donc, je vais profiter de ma nouvelle thermopompe pour la première fois dans les prochains jours.
J'ai survécu à plusieurs étés grâce à ça.
Ben voilà.
Oui. Madame Leblanc, vous aviez un commentaire fantôme.
Oui, parlons des fantômes. Marc-Antoine nous demande, j'ai une question un peu nounoune. Il n'y a pas de question nounoune.
Non, en effet.
Il n'y en a aucune. Mais la consommation fantôme, c'est quoi? Emoji comme ça.
Comme ça.
Emoji qui se tient le menton et qui se questionne.
Moi, la consommation fantôme, je la vois comme la consommation qui est chez vous et que vous ne savez pas qu'elle est là.
Comme un fantôme.
Il est peut-être là, il est peut-être pas là, mais la définition peut prendre plein de formes différentes. Mais grosso modo, on argumente que souvent que c'est, par exemple, la consommation d'une console de jeu qu'on n'utilise pas pendant plusieurs semaines. Certains diront, mais moi, je l'utilise tous les jours. OK, si tu l'utilises, c'est parfait. Mais as-tu besoin de la laisser brancher toute la nuit? Certains diront, oui, parce que j'ai des mises à jour et compagnie. Fait que là, faut faire attention. Est-ce que c'est nécessaire que l'équipement soit branché en continu pour pouvoir servir le besoin de l'utilisateur? Si la réponse est oui, c'est potentiellement pas une charge fantôme.
Parce qu'en fait, la charge fantôme, il faut que ton appareil qui est branché utilise l'énergie.
Ouais.
Si je laisse ma bouilloire branchée, il ne se passe rien. Si je laisse mon PlayStation allumé, il y a une lumière d'ouverte, là, il va consommer un peu.
Mais pas juste la lumière. Souvent, c'est que les PlayStation et compagnie, ils sont plus qu'allumés. C'est pas juste la lumière. Ils sont en attente de mise à jour continuelle. Je sauve les détails, mais c'est plusieurs dizaines de watts. Puis quand ça s'accumule, ben ça fait que c'est l'équivalent d'une bonne grosse ampoule tout le temps allumée chez vous. Okay? Donc, mais on ne le sait pas. Donc, peu de personnes connaissent un peu la puissance ou l'utilisation énergétique de leurs équipements qu'ils prennent pour acquis, mais souvent, certains équipements comme les anciens téléviseurs, les consoles, c'est souvent ces systèmes-là. Est-ce que le Wi-Fi, c'est une charge fantôme? Bien, quand on n'est pas là, est-ce que c'est pratique d'avoir le Wi-Fi? Bon, puis certains diraient non, on devrait le débrancher à chaque fois qu'on sort de la maison.
C'est pratique pour les voisins.
C'est pratique pour les voisins. C'est pratique
pour les hackers qui veulent avoir l'Internet autour de chez vous.
Oui. C'est ça. Donc, et moi, je ne considère pas non plus que le modem ou la boîte est une charge fantôme, mais pourtant, c'est une charge qu'on oublie. Donc,
on pourrait débrancher tout seul. Ouais.
Mais si on le débranche, est-ce qu'on a encore accès à nos trucs de téléveille? Est-ce qu'on a accès à nos petites caméras ou nos gadgets qu'on a mis sur la maison?
C'est encore question de confort versus...
Et voilà.
Donc, le critère, c'est de se dire, est-ce que c'est quelque chose que j'utilise justement régulièrement, qui va avoir une utilité. Justement, Pierre-Alexandre, lui, il y a un jeu qui va s'updater, qui va se downloader sur son PlayStation. Il veut l'avoir le lendemain, c'est correct. Mais s'il ne l'utilisera pas pendant 3 semaines sur PlayStation, peut-être que là, il pourrait le débrancher.
Exact. Donc, si l'utilisation est occasionnelle, bien, vous pouvez vous équiper même d'une barre avec une Switch. Pas besoin d'une barre intelligente. Là, vous dites, tout mon kit est sur une barre, j'ai juste un bouton à défaire.
C'est facile.
Là, je la mets hors ligne pendant... Jusqu'à temps que mon groupe
dehors.
De party...
Ouais.
Oui. Ou tu vas jouer dehors.
Oui. Tu entraînes tes enfants à le faire. C'est pas besoin de...
Fait que si il y a un NHL 2023 party qui est prévu avec 8 gars, ben on la remet à on.
8 gars ou 8 filles.
Oui, tout le monde peut jouer à ça.
Je dois avouer que j'ai pas peur des fantômes. Puis ma console est pas mal toujours ouverte parce que c'est vraiment long avant que...
Il faut prévoir le coup.
Pierre-Alexandre, un commentaire sur l'éclairage urbain, n'est-ce pas?
Ouais, récemment, on s'est fait tweeter une photo par une certaine Josiane vers 18h qui dit « Quand Hydro te dira de baisser le chauffage pour économiser de l'électricité, pense à cette photo. » Et c'est une photo de notre siège social.
Ouais, je la vois.
Avec des belles fenêtres éclairées.
Le logo éclairé.
Ben, le logo qui est constamment éclairé, effectivement.
Oui. Qu'on confirme à l'occasion, mais c'est juste pour justement sensibiliser. Son commentaire est très bon. C'est pas juste Hydro-Québec. Okay? Donc, on a des enjeux d'utilisation de notre espace. On veut optimiser. Puis en passant, on souhaite être les leaders dans l'utilisation de notre énergie. Et les exemples comme ceux-là vont nous remettre en question pour dire, y a-t-il moyen d'ajuster notre horaire de ménage? Parce que les gens qui font le ménage vont avoir besoin d'éclairage pour faire le ménage. Donc, c'est pas un... Alors, est-ce que toutes les équipes sont sur les étages en même temps? Probablement que non. Est-ce qu'ils ont tous les outils pour fermer et ajuster l'éclairage au bon moment? Peut-être que non plus. Puis là, c'est là notre responsabilité. Mais on a vraiment une volonté d'être leader et être de prendre l'avant. Donc, je peux vous confirmer qu'avec nos équipes de gestion de bâtiments, il y a beaucoup de travail à faire.
On va améliorer ça. Imaginez.
Mais on n'est pas les seuls, parce que si vous faites le tour de tous les bâtiments commerciaux au centre-ville, ils ont à peu près tous le même problème.
Imaginez ça, tout le monde qui fait le ménage avec un chapeau de mineur.
Oui, oui.
Avec sa frontale.
Tout le monde appelle 911 parce qu'on pense qu'on se fait cambrioler.
On voit des mais
Watergate.
À partir de 17h, tous les employés avec une lampe frontale. Parle-moi de ça, d'efficacité.
Mais on doit donner l'exemple, puis avoir un siège social complètement éteint ou avec une seule un seul étage à la fois.
On donne un peu l'exemple, Jonathan, d'ailleurs, quelque chose
à dire. Il y a déjà quand même certaines choses qui sont faites à ma connaissance. Pour moi-même, pour l'avoir vécu, là, j'étais venu un moment le soir, puis là, la lumière est éteinte, fait que là, tu l'allumes, commence à travailler, puis le moment bam, la lumière s'éteint.
Elle est sur un...
Faut que tu te relèves. Puis ce que j'ai compris, c'est que les lumières, c'est à partir de, je pense, que c'est 7h30, 8h le soir.
Exact.
Les lumières vont s'éteindre toutes seules à toutes les heures si t'es pas allé la rallumer. Donc, si on voit des lumières allumées là, ça veut dire que dans la dernière heure, il y a eu quelqu'un là qui
exact.
Qui l'a
donc,
allumé.
On a déjà des outils. Ouais. Et justement, on a des minuteurs qui rechargent la lumière pour travailler. Il y a quelqu'un qui peut avoir une situation d'urgence, il a besoin de ses bureaux pour travailler. Donc, c'est une foule de choses, mais l'ajout du contrôle, l'éclairage contrôlé, c'est toutes des mesures qu'on souhaite que les clients mettent en place. Souvent, ils ont les outils, puis ils n'utilisent pas nécessairement au maximum. On est peut-être les premiers à se remettre en question au besoin, mais c'est quelque chose qu'on incite les clients à faire de plus en plus. Les bâtiments ont déjà été beaucoup, beaucoup influencé, puis on a beaucoup d'éclairage efficace qui a déjà été mis en place dans la plupart des bâtiments au Québec. On continue à les motiver à choisir le bon éclairage. Donc, l'éclairage, c'est quelque chose qu'on voit, qui est visible, mais qui cache souvent plusieurs autres stratégies qui sont derrière.
Le temps file, il reste quelques commentaires à vous soumettre, dont un, Mme Leblanc, que je vous invite à soumettre au vol.
C'est un excellent lien, Francis, parce que ce commentaire de Jocelyne nous parle de pinson. Tu pensais peut-être pas nous parler de ça aujourd'hui, mais assis-toi bien confortablement, c'est parti. Merci. Jocelyne nous dit en plus, je chauffe seulement dans la cuisine parce que je n'ai pas le choix, car nous avons un petit oiseau de compagnie, entre parenthèses pinson japonais, et nous ne voulons pas qu'il ait froid, car nous ne voulons pas qu'il meure. Nous l'aimons beaucoup. On ne veut pas qu'il meure non plus.
Non.
Ensuite, nous avons un 4,5 et une chambre que nous chauffons seulement la nuit et baissons le matin à 20. Donc, nous ne comprenons toujours pas. Je pense que Jocelyne essaie de nous dire qu'elle a de la difficulté à économiser son énergie.
Mais attends, la température dans la chambre qu'elle chauffe seulement la nuit est plus que 20 si elle la baisse à 20 le matin?
Je pense que oui. Je pense que Jocelyne, elle a froid. Mais rappelons, je ne sais pas c'est quoi la température de confort pour un pinson japonais. Je ne suis pas experte. Mais bref, tout ça pour dire que les gens sont amenés à prendre des décisions pour mieux consommer selon ce qui convient à leur mode de vie. On ne voudrait jamais qu'un pinson japonais meure à cause d'Hydro-Québec. Donc, Jocelyne peut sûrement prendre d'autres mesures d'efficacité énergétique pour prendre en main sa consommation. On ne dit pas aux gens de tout faire. On dit aux gens de faire ce qui est possible pour eux.
Elle peut mettre une couverture de chauffe-eau autour de la cage.
Sur la cage.
La couverture de chauffe-eau. Ou même une couverture chauffante. En tout cas, bref, mais ça revient encore à quels sont vos besoins. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est toujours réduire votre consommation, mais ne pas sacrifier votre confort. Fait que si le confort du pinson, c'est de 23 degrés, bien, on va lui laisser peut-être un petit espace à 23 degrés ou voire 25. Bon, ça va coûter plus cher, là, c'est sûr et certain, mais c'est vraiment trouver les moyens d'être... Oui, elle aime beaucoup.
Elle aime beaucoup, donc sûrement qu'elle est prête à payer pour son 23 degrés.
Bien sûr, exact.
Peut-être donc, on chauffe pour le pinson, on ne se fait pas une dinde. Ça non, puis
les exemples, par exemple, du garage. Est-ce qu'on a besoin de garder le garage à 18, 19, 20 degrés?
Si le pinson est là, peut-être.
Peut-être.
Ouais, si on aime beaucoup notre voiture, on ne veut pas qu'elle ait froid.
Non, mais la voiture, mais la voiture, c'est pas un pinson. Donc, je pense que la voiture est capable de prendre 12, 14 ou 16 degrés. Donc, c'est important de s'assurer qu'on ait les bonnes températures à la bonne place. Puis le garage, entre autres, vous pouvez vous permettre de réduire la température au minimum, minimalement à 15 degrés, voire légèrement plus bas.
Je pense aussi que les voitures, en général, sont moins frileuses que Jessica, dont on parlait dans un commentaire un peu plus tôt. Monsieur Côté, commentaire à soumettre?
Question commentaire plus qu'une question qui revient quand même assez souvent, puis les gens ont l'air d'avoir la difficulté à comprendre ça. Ils disent, bien, c'est Frank qui nous dit « Hydro-Québec est le seul vendeur qui nous encourage à consommer moins de son produit. » Puis c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Les gens, ils comprennent pas qu'on encouragerait les gens à faire l'efficacité énergétique.
Bien, il faut savoir que tous les clients ou toute consommation qui s'ajoute, puis je pense que mon collègue peut-être d'approvisionnement, je pense que vous avez déjà rencontré, mais bref, chaque kilowattheure ou chaque consommation, chaque nouvelle maison qui s'ajoute au parc de notre belle province, c'est une consommation supplémentaire. Le problème, c'est que la première maison qu'on a branchée, peut-être en 1901, là, où je ne me souviens pas trop quelle date, ben, elle coûtait pas trop cher à alimenter. On a eu le barrage et la centrale qui l'alimente, et là, depuis une centaine d'années. Fait que je vous dis, donc... Mais là, le problème, c'est que ce coût marginal-là, donc le dernier kilowattheure qu'on doit acheter pour remplir les besoins de monsieur, nous coûte essentiellement deux fois plus cher, juste si on regarde juste celui-là, que la moyenne qu'on vend à tout le monde. Donc, c'est cet écart-là qui fait qu'on a tout intérêt à réduire le plus possible la nouvelle consommation. Et on le fait comment? Bien, en ayant des maisons neuves efficaces, en ayant des consommations efficaces neuves, mais on a aussi besoin des clients existants qui fassent des gestes comme de l'éclairage efficace, des thermostats électroniques et autres mesures de façon à réduire globalement. Avec, oui, je vous confirme qu'on souhaite alimenter le moins kilowattheure possible pour les nouvelles installations et aller chercher des économies de façon à réduire le coût d'approvisionnement du dernier kilowattheure.
Qui est payé par tous, finalement.
Qui est payé par tous, parce qu'on donne, on n'a pas une facture pour un nouveau client qui diffère d'une facture du kilowattheure pour un ancien client. On dit à tout le monde, c'est le tarif égal pour tout le
monde. Donc, si les coûts doivent monter, ils vont monter pour tout le monde et pas juste pour le dernier client qui
exactement,
se branche.
Exactement. Donc, et c'est pour ça qu'on fait de l'efficacité énergétique. C'est littéralement à cause de la différence entre le coût moyen qu'on obtient des tarifs et le coût marginal, le dernier kilowattheure qu'on achète et qu'on doit produire et qui coûte essentiellement deux, trois fois plus cher que le premier qu'on produit.
Parce que nous, c'est un argument qu'on donne souvent, les clients qui nous disent « Hydro-Québec, c'est à nous, c'est moi qui paye, c'est moi qui décide ». Bien, on leur rappelle que justement, vous payez, vous décidez. Donc, décidons ensemble que les tarifs n'augmentent pas en faisant un maximum d'efforts collectifs.
Et voilà. Donc, Et les programmes d'économie d'énergie, on parle toujours souvent de mégawatts ou de plein de formes de façons, mais c'est vraiment ça. On essaie de... Puis encore une fois, je le répète, puis je le répéterai tout le temps, on doit remplir les mêmes besoins. On ne sacrifie pas. Tu sais, fermer une usine, c'est pas de l'efficacité énergétique. Fermer un commerce, non plus. C'est littéralement des pertes. Alors, ce qu'on veut, c'est que l'usine et le commerce produisent et vendent autant, voire plus, avec moins d'énergie. Donc, c'est vraiment ça, l'efficacité énergétique.
Moi, j'ai une dernière question pour laquelle on n'a pas forcément d'exemple, mais qui revient quand même assez souvent. Certains politiciens ont commencé à utiliser le terme « sobriété énergétique ». C'est quoi la différence entre l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique?
Bien, c'est une très bonne question, P.A., parce que, justement, la sobriété vient mettre le confort en jeu. Okay? Donc, le besoin. Là, on doit se remettre en question. A-t-on besoin de faire ci, de besoin de faire ça? Alors, dire « a-t-on besoin de chauffer à 21 Celsius? » Non, on va le faire à 20. Et là, si tout le monde dit c'est 20 ou c'est 19, un peu comme la France a annoncé, les pays européens là, sont vraiment dans un contexte énergétique, mais là, ils ont décidé littéralement d'être sobres. Mais ça veut dire qu'ils sacrifient quelque chose. Ils sacrifient le confort. Et si c'est dire on va prendre une douche une journée sur deux, bien là, on sacrifie aussi le confort.
Une
fois par semaine tiède. OK? Mais là, c'est... Ça va peut-être en faire des... Donc, on ne remplira pas le même besoin. Donc, la sobriété, c'est remettre en question notre besoin. C'est plus remettre en question la quantité d'énergie qu'on utilise pour remplir le même besoin. C'est carrément dire... Donc, on parlait même... comment peut-on introduire la sobriété dans les transports? Est-ce que l'efficacité énergétique des véhicules qu'on recharge, si on fait du covoiturage de ces véhicules-là, est-ce qu'on fait... de la sobriété, de l'économie d'énergie. Là, on mélange un peu tout ensemble, mais grosso modo, on doit comprendre que c'est que les deux sont pas tout à fait la même chose, mais visent toujours le même objectif, c'est-à-dire réduire la consommation d'énergie. Mais dans un cas, on sacrifie une partie de notre besoin ou de remplir nos besoins, et dans l'autre cas, on remplit les mêmes besoins avec moins d'énergie. Donc, on obtient le même résultat, mais on n'obtient pas nécessairement la même qualité de vie.
Bonne nuance.
J'ai l'impression qu'on pourrait en parler encore des heures.
Je t'indique qu'on va sûrement en parler pendant des années encore.
Des années, oui.
Oui.
Et vous allez écrire là-dessus
nous
encore.
Nous autres, on va en parler encore souvent, ça, je peux te l'assurer.
Étienne Saint-Cyr, merci beaucoup. Quant à vous à la maison, surveillez la liste de sujets. Il y a sûrement tout plein d'autres thèmes qui vont vous intéresser. Merci beaucoup d'avoir été là.